Cette émission vous est proposée avec la glorieuse participation de Geoffroy Husson, Samuel Frochet, Ézéchiel Fernandez, Muriel, Timo From Paris, Pierre, Olivier Faquet, Sebor 91, Tech2Tech FR et Bertrand Soulier. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est l'actu bimensuel tech, internet et gadgets. C'est une émission simple, pratique, qui vous permet d'avoir, de suivre toute l'actualité tech, internet et gadgets sans avoir à écumer tous les jours, tous les blogs tech, les centaines, les milliers d'articles. On les consomme, on les analyse, on les résume, on les simplifie et on vous les livre en à peu près une heure et demie. De conversation tech. Donc, quand vous voulez savoir ce qui se passe, il y a deux choses à faire. D'abord, écoutez le rendez-vous tech et ensuite et surtout, allez sur le blog corben.info, évidemment.
Eh ben oui, évidemment.
Parce qu'il y en a quand même un. Il y en a quand même un qu'il ne faut pas rater, c'est le blog de Corben. Comment vas-tu, Corben ?
Ça va, écoute, ça va. C'est lundi matin. Enfin, là, je ne sais pas quand tu diffuseras, mais là, c'est lundi.
Ouais, c'est à peu près lundi. Disons
je me réveille.
On enregistre tôt, c'est nouveau depuis que je suis podcasteur professionnel, je peux enregistrer le matin.
Mais j'ai l'impression, en regardant tes Snapchat, en regardant tes tweets, que t'es plutôt joueur de Hearthstone professionnel, non ?
Bah, ces derniers temps, j'avoue que je joue pas mal à Hearthstone, c'est vrai.
Essaye de gagner du blé avec.
Je suis malheureusement pas assez bon, hélas. Dommage. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me parlent justement de Hearthstone depuis que j'en tweet et j'en Snapchat. Il y a des gens qui me disent qu'ils n'arrivent pas à passer les premiers éléments du jeu. Je me demande si je devrais pas faire un petit tutoriel pour grands débutants.
Bah pourquoi pas, hein, ça pourrait être intéressant. Ça existe peut-être déjà, je sais pas. Il y en a qui font ça pour Minecraft,
sûrement.
Donc peut-être que tu pourrais.
Oui, il y en a sûrement, il y a plein de guides, mais j'ai vu assez peu de guides pour les gens qui arrivent même pas à passer le tutoriel, tu vois.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment compliqué pour pas réussir à passer le tutoriel. Donc, peut-être qu'ils ont besoin d'aide, ces gens-là. Bon, tout
après,
ça, c'est une.
Tu peux te mettre dans le social, hein, mais.
Oui, c'est ça, exactement. Bon, c'est une conversation d'une autre nature. On va plutôt parler de sujets assez sérieux aujourd'hui, et notamment le projet de loi sur le renseignement qui a fait beaucoup de bruit cette dernière semaine et sur lequel tu as, toi, Corben, un avis assez tranché. Moi aussi, j'avoue que j'ai été un petit peu remonté. On va aussi parler de blocage administratif dans le même sujet. On va également parler de Windows 10, qui serait visiblement gratuit pour tous les pirates du monde. Donc en fait, Windows 10, quasiment gratuit pour tout le monde. Et puis en fait, non. Et puis en fait, on va vous expliquer de quoi il en retourne, voilà. On a le fin mot de l'histoire, pour qui il est gratuit et pour qui il n'est pas gratuit. Et on aura bien sûr après les news et rumeurs. Mais donc, on va se lancer pour ce premier sujet de l'épisode 155... du Rendez-vous Tech, avec le projet de loi sur le renseignement.
L'entrecôte, quoi, de l'émission.
On commence direct avec le gros morceau.
Ok.
Comme je le disais, c'est un projet de loi, je pense que la plupart d'entre vous en a entendu parler. C'est un projet de loi qui est établi par le gouvernement, évidemment, qui vise à faciliter le travail de la police et des services de renseignement. Mais avant de nous lancer dans la question du projet de loi sur le renseignement spécifiquement, j'aimerais faire un petit détour par le blocage administratif. La loi sur le blocage administratif a été votée en novembre dernier. Et on a eu la première application de ce blocage qui, pour rappeler un petit peu aux gens, permet à une autorité administrative, donc qui n'est pas composée de juges, de faire bloquer des sites au niveau des FAI.
Des DNS.
Ouais. Des DNS. C'est-à-dire que ils vont remplacer, quand vous tapez une URL, le nom d'un site, dans votre barre d'adresse, le site va voir sur un serveur qui s'appelle une DNS, Domain Name Server, et va envoyer la réponse qui correspond à une adresse numérique sur laquelle est effectivement hébergé le site. Là, il remplace cette équivalence entre nom de site et adresse numérique pour qu'on ne puisse plus y accéder en tapant le nom du site. C'est bien ça, hein, je ne dis pas de bêtises.
C'est ça, c'est ça.
Et les sites sélectionnés sont sélectionnés, on sait pas trop finalement.
Alors moi je sais pas, mais ce que je pense c'est que les sites sélectionnés sont sélectionnés par la police, par l'OCLCTIC, qui dit voilà, ceux-là on les a repérés, ça serait bien de les bloquer, est-ce qu'on peut les bloquer, voilà. Mais ça c'est comme ça que je le sens en tout cas. Enfin, ça peut venir après d'un ministre ou on sait pas quoi, mais je doute qu'il soit bien au courant de quels sont exactement les sites pro-Daesh ou je sais pas quoi qu'il faut bloquer, quoi. Donc je pense que c'est plutôt les flics qui ont dit bon bah ceux-là ils nous embêtent, est-ce qu'on peut les bloquer, quoi.
Bon, disons que c'est à vrai dire ce problème qui est essentiel dans le blocage administratif, c'est que on ne passe pas par un juge, on en avait déjà parlé. Et il y a une vraie entorse à la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire que la décision se prend dans une sorte de, en tout cas de mon point de vue, à moins que les choses soient très claires, hein, mais j'ai pas l'impression, se passe dans une sorte de flou entre l'exécutif et le législatif. Il y a une décision qui est prise, et c'est une décision qui, a priori, selon le bon sens commun, à mon avis, devrait être prise par le judiciaire. Il faudrait qu'il y ait un juge qui regarde la demande de blocage et qui estime si elle est conforme avec la loi, si elle est justifiée, etc. Si on fait un blocage de site avec passage par le juge, a priori, ça me poserait beaucoup moins de problèmes. Mais là, on fait une vraie entorse à la séparation des pouvoirs, non ?
Et ce qui est amusant, c'est que le premier site bloqué, donc qui était islamicnews.info, je crois, ouais. Est tombé directement dans ce cas-là. C'est-à-dire que le mec a fait une interview sur Numérama où il disait, enfin en gros, il a dit « Moi, je suis pas pro-Daesh, j'écris c'est comme un blog, quoi, j'écris ce que je pense, etc. » Bon, clairement, le mec, je pense qu'il est un peu pro-Daesh, hein, dans son logo. Il y a le drapeau de l'État islamique et compagnie. Mais bon, apparemment, dans ce qu'il disait, il n'y a pas d'incitation à aller s'engager en Syrie ou d'appel au terrorisme ou quoi que ce soit. Bon, peu importe. Mais de toute façon, du coup, ça a levé pas mal. Ce qui était amusant, c'est que ça a levé pas mal de discussions entre journalistes ou entre gens qui étaient sensibles sur le sujet, où les mecs se disaient « Mais si, regarde, c'est un terroriste, il a le drapeau dans son titre, regarde ce qu'il raconte, c'est un terroriste. » Et l'autre dit « Bah non, c'est la liberté d'expression, c'est juste un logo, il raconte ce qu'il veut, tant qu'il appelle pas au terrorisme, c'est bon, quoi. » Et là, en fait, ce genre de débat, c'est typiquement pour ça qu'il y a un juge, quoi, normalement. Et donc là, on bloque.
Exactement.
Et il n'y a pas de juge et personne ne peut départager, on va dire, les gens, quoi. Est-ce que ce site est vraiment un site de criminel? Est-ce que c'est un site qui a le droit d'exister même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, etc. Voilà, c'est un peu compliqué. Et seul un juge aurait pu départager le truc. Et ce qui m'étonne encore plus, c'est que le webmaster de ce site, apparemment, il n'est pas du tout planqué, on sait qui c'est. Il est en France ou en tout cas en Europe. Il n'y a pas de. Et je comprends pourquoi, si son site était vraiment si terrible que ça, pourquoi il ne serait pas condamné, en prison, attaqué, enfin peu importe, mais qu'il n'y ait pas une procédure. En tout cas, on ne la connaît pas. S'il y en a une, on ne sait pas. Mais le mec s'est exprimé librement, enfin, il n'avait pas l'air. Ça n'avait pas l'air de craindre pour lui plus que ça. Donc je trouvais ça un peu bizarre qu'il bloque comme ça.
C'est à vrai dire, ça pointe du doigt, et c'est marrant que ça le fasse déjà avec la première vague de blocage, parce que c'est... Bon, il fallait s'y attendre, mais il y a un article, et il y en a eu plusieurs dans la presse anglophone, là je pensais à un article de TechDirt qui disait « French government starts blocking websites with views the government doesn't like ». Et ça pointe du doigt quelque chose de très important. Ça se traduit, le gouvernement français commence à bloquer des sites qui expriment des vues, des opinions que le gouvernement n'aime pas. Et ça pointe du doigt un problème vraiment profond dans certains pays européens et dans la société française et en Allemagne notamment. C'est la vision qu'on a des lois sur l'incitation à la haine raciale. C'est-à-dire que pour nous, le fait de bloquer des opinions ou d'interdire des opinions qui ne nous plaisent pas finalement parce qu'elles sont inacceptables, je mets des guillemets autour d'inacceptables, c'est quelque chose d'assez naturel. Et on l'a presque intégré à notre système de pensée. Et on perd un petit peu de vue le fait que c'est une entorse majeure à la liberté d'expression. Même si c'est des opinions inacceptables, le fait de les interdire, c'est une véritable entorse majeure et grave à la liberté d'expression. Alors, je dis qu'elle est majeure et grave, je ne dis pas qu'elle est, qu'elle devrait pas exister. Bien sûr, il me paraît tout à fait compréhensible qu'on interdise certaines opinions. Mais si on perd de vue que ce sont des entorses à ne pas prendre à la légère, on perd de vue aussi le fait qu'il est important d'avoir un juge qui décide. Parce que je veux bien qu'on interdise certaines personnes d'exprimer certaines opinions, mais pas sans qu'un juge, qu'une autorité de l'appareil législatif exprime... enfin, juge de la chose, justement. C'est son boulot. Ouais. C'est le principe même de la démocratie et de la... Je m'énerve un petit peu, je suis désolé, ça me met... Mais c'est le principe même de la démocratie et de la séparation des pouvoirs. Comment est-ce qu'on peut être assez aveuglé par j'allais dire notre haine du terrorisme, mais je dirais même notre peur du terrorisme, pour perdre de vue le fait que la liberté d'expression, enfin que effectivement les lois sur l'incitation à la haine raciale sont une entorse à la liberté d'expression, et les principes de la séparation des pouvoirs. Ça me paraît assez hallucinant, cette histoire. Et il y a souvent des gens qui disent, et d'ailleurs certains représentants de l'autorité, qui disent... oui, mais vous savez, on a déjà ce type de procédures qui sont possibles pour les contraventions, par exemple. On a un policier qui peut dire « Bon, ben voilà, là, je constate une infraction, je pose une contravention de moi-même sans qu'il y ait un juge. » Oui, ok, bien sûr. Là, on parle d'une voiture qui est mal garée. On ne parle pas d'un des fondements de notre démocratie qui est la liberté d'expression. On ne peut pas... si on peut à la limite accepter qu'un policier juge de lui-même d'une infraction quand on parle d'une voiture mal garée ou de quelqu'un qui traverse en dehors des clous ou de quelqu'un qui dépasse la limite de vitesse qui peut être relativement objectif, je sais qu'il y a des débats, mais enfin bon, c'est quand même quelque chose de quantifiable. Là, sur la question de la liberté d'expression, c'est pas une voiture mal garée, merde. Il faut l'intervention d'un juge, absolument. Donc voilà, ce blocage administratif qui a été voté déjà en novembre, donc c'était avant même les attentats de Charlie Hebdo, me paraît, pour le moins, j'essaye de me tempérer et de rester objectif, et pour le moins problématique, quoi, pour toutes ces raisons.
Ouais. Écoute, bon. T'as bien résumé le truc. Non, mais moi j'arrive même pas à concevoir, enfin, le truc, quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, pour ce fameux site, mais même pour les autres, hein, j'ai pas été les voir, hein, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais on peut pas décider de la vie ou de la mort d'un site et d'un mec, enfin de brider là, ou de stopper la liberté d'expression d'un mec sans avoir des vraies preuves, sans avoir une liste de choses à présenter. Et là, on sait rien, on n'a rien vu. Alors, peut-être que oui, les flics ont toutes les raisons du monde de bloquer ce mec, etc.
Bien sûr.
Peut-être. Mais et le problème avec ce début de truc là, c'est que bah peut-être que là, si demain je fais un article sur l'État islamique et que je mets un drapeau du Daesh, même si c'est anti Daesh ou quoi que ce soit, bah peut-être que les mecs vont même pas réfléchir, vont le drapeau, ils vont bloquer mon site.
Ça je pense pas. Là t'exagères un
non,
petit
non,
peu.
Non, mais après ça peut dériver. Je parlais hier du piratage. Peut-être que cette loi sera dérivée si tu télécharges un truc, bah ouais, peut-être que je vais parler des mules sur mon site, bon, c'est vieux maintenant, mais de BitTorrent sur mon site, ouais. Peut-être qu'ils vont se dire, ah bah ce site-là, il présente des techniques pour télécharger, machin, allez, on le bloque, tu vois, ça peut être n'importe quoi, hein. Après, ça peut dériver, et puis si on se retrouve un jour, malheureusement, avec un gouvernement qui aime bien les dérapages, comme ça pourrait arriver, et on pourrait se retrouver assez vite avec des tas de sites bloqués, que ce soit opposants politiques ou n'importe quoi, mais même sans forcément que ça soit connu, reconnu ou quoi que ce soit. C'est juste, ça tombe dans un trou, ça disparaît, personne n'est prévenu. Bon, là, il y a la main rouge, la fameuse main rouge qui arrive, en fait, quand vous allez sur le site, il y a une espèce de grosse main rouge qui va être retirée, parce qu'apparemment, elle fait polémique, cette main rouge. J'ai pas lu exactement pourquoi, mais c'est tout un symbole, la main rouge. Ça doit
Ah
être un
oui,
truc...
j'ai pas vu non plus.
Ça doit être un truc, genre, comme la main noire, ou je sais pas,
Ouais.
les communistes, ou je sais pas, mais bon, bref. c'est tout un
Non,
symbole
mais
qui a
c'est
choqué
vrai
pas mal de monde.
que... C'est vrai que le gros problème, c'est que la question de qui peut dire quoi, c'est une question qui est importante et qui est grave et qui, à mon sens, ne peut pas être laissée à la merci d'un gars dans un bureau, quoi. Je sais que je caricature, mais c'est pas Jean-Jacques dans le bureau de tel ministère ou de telle autorité administrative qui peut décider, bon ben toi, t'as le droit de dire ça, toi, t'as le droit de dire ça. Il faut s'assurer que cette décision soit prise en accordance, j'invente des mots, avec les lois. Enfin, bon, bref, et c'est pas un type dans un bureau de décider si c'est en accord avec les lois ou pas. C'est pas, enfin, c'est un juge. C'est la définition du boulot du juge. Enfin bon, bref. Et effectivement, tu fais une extension de la question par rapport aux dérives possibles plus tard. Et c'est sûr que c'est toujours un terrain hyper glissant, genre, voilà, s'il y a tel parti qui arrive au pouvoir, on va se retrouver avec tel blocage de tel truc. Mais c'est pas... Enfin, ça pourrait arriver, disons, on pourrait en débattre, mais c'est surtout, une fois que le système est en place et accepté, oui, Daesh, machin, on se dit, on est tous plus ou moins d'accord pour dire oui, mais... On sait que ce genre de truc a tendance à s'étendre un petit peu, et bien sûr, ça va pas être parce que un tel a parlé d'un truc qui ne plaît pas au gouvernement, a priori, ça serait un peu gros.
Ah, ça se verrait un
Mais
peu, oui.
voilà. Mais par contre, des questions qui sont de contrefaçon, de piratage, de machin, de trucs, et puis, enfin bon, c'est vraiment une pente hyper glissante et hyper dangereuse. Donc, bon, je pense qu'on a assez résumé la chose. On va passer à une autre pente qui est
Ouais,
également
alors ça va.
hyper glissante, qui est la question du projet de loi sur le renseignement, dont on ne sait pas encore tout. Hein, je me trompe pas, Corben, on n'a
Bah,
pas lu le texte, hein.
ils ont balancé un brouillon. Et je pense qu'avec les réactions qu'il y a eu, ils vont faire un peu le ménage dans leur brouillon et on aura un truc un peu plus définitif là cette semaine, je pense. Donc
Alors,
voilà, les idées là, enfin les trucs dont on va parler maintenant, c'est sur ce brouillon. Après, est-ce que ça sera proposé officiellement? Je sais pas, mais on verra.
bah, ils ont convoqué
En tout cas, ils
tout
y
un
ont
tas de
pensé, hein.
blogueurs, tout un tas de... Mais il y a eu une petite levée de bouclier, ce qui me rassure un petit peu quand même, parce que ce projet de loi est hyper... Hyper inquiétant. Et franchement, j'ai tendance à être mesuré. Hein. Vous me connaissez, chers auditeurs, j'ai pas tendance à m'emporter à tout bout de champ. Et généralement, quand je m'emporte, je tempère ensuite mon opinion parce que j'essaye de trouver les arguments qui contreraient mon argument initial. Mais là, franchement, je suis vraiment inquiet parce que il y a plusieurs éléments à ce projet de loi. Il y a effectivement le brouillon, mais franchement, ça reste un petit peu flou parce que même dans le brouillon, on a des éléments qui sont pas clairs, qui ne définissent pas exactement certaines choses. La première partie, c'est une partie qui est censée rationaliser les outils qu'utilisent déjà les services de police et de renseignement, les outils, pas d'espionnage, mais d'écoute,
Enfin, c'est les
de...
micros qu'on met chez toi, les caméras qu'on met chez toi, les trackers GPS dans la voiture, ce genre de
Voilà.
trucs, quoi.
Mais les outils, enfin les logiciels de tracking qu'on installe à ton insu sur ton
Oui,
ordinateur ou ton
aussi, les
téléphone.
keylogger, tout ça.
Voilà, ce genre de choses. Et il y a une bonne partie de ces outils qui sont utilisés aujourd'hui en dehors du cadre légal, on va dire. Bon, dans un cadre
Un peu flou.
qui sont, voilà, un petit peu flou et qui serait légalisé suite à cette loi. Là encore, je crois que j'ai pas trop de problème avec le principe de, entre guillemets, l'espionnage ou de la surveillance parce que bien sûr, la police, je pense qu'on comprend très bien que si ils ont besoin de faire des écoutes téléphoniques dans le cadre d'une enquête, et là encore, je veux dire, on en revient à ça systématiquement, l'écoute est sanctionnée par un juge, je pense que ça pose pas trop de problème. Hein. Donc ça, c'est une extension de ce type de directive,
Ouais.
n'est-ce N'est-ce pas, Corben?
Bah ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que c'est pas les policiers qui prennent l'initiative d'eux, ils demandent
Voilà.
au juge, au procureur, ou je sais
Faut
pas
un
qui,
mandat,
font,
il
voilà,
faut.
il y a une procédure, c'est parce que on est déjà dans le collimateur et que voilà, ça sent pas bon, mais c'est pour dans le cadre d'une enquête, ouais.
Exactement. Donc, bon, dans le cadre d'une enquête, si on reste dans ce cadre-là, dans le texte de la loi, la nouvelle loi sur le renseignement, bon, ça me pose pas de problème plus que ça. La chose qui me préoccupe beaucoup plus, et c'est là qu'on rentre dans une sorte de flou artistique qui est tout à fait inacceptable, c'est la volonté d'installer par l'autorité, encore une fois, du renseignement, des outils, des serveurs, bon, ce qu'on a appelé dans la presse des boîtes noires, chez les opérateurs et les fournisseurs de services.
Il n'y a pas que ça.
Mais bah, tu vas me dire après, moi, c'est ça le truc qui m'a le plus choqué. Mais,
ouais, mais il y a d'autres trucs choquants. Mais vas-y.
Alors, cette boîte noire pourrait détecter, là je cite, détecter par un traitement automatique une succession suspecte de données de connexion. Et alors là,
bah,
qu'est-ce
c'est,
que
ouais,
ça
c'est,
veut
c'est,
dire
c'est une sorte noire, avec des algorithmes super
voilà.
sophistiqués qui vont pouvoir détecter si à l'autre bout de la ligne téléphonique ou à l'autre bout de la fibre il y a un terroriste potentiel ou...
Et alors ce voilà. que ça veut dire concrètement, ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut extrapoler, c'est un serveur qui intercepte toutes les communications de tout le monde, mais de tout le monde, parce que c'est comme ça que ça devrait marcher, de tout le monde, et qui va regarder où il va se connecter, et si jamais il va se connecter à des sites méga terroristes qui n'auront pas été bloqués, sans doute intentionnellement, hein, parce qu'il y en a certains qu'on veut bloquer, mais d'autres qu'on veut pas bloquer, donc on comprend plus trop, mais bon, eh ben, les renseignements seront informés. Mais donc, il y aurait une sorte de surveillance générale de tout le monde pour voir ce qu'ils font, où ils vont se connecter, et des fois que ce qu'ils font, ça ne soit pas trop cachère.
Alors là où c'est très drôle, là où c'est très... Ce ne soit pas vrai. là où c'est encore plus fort, c'est que pour rassurer tout le monde, ils te disent que les données analysées, donc les données qui vont passer par ces fameuses boîtes noires, elles seront anonymisées. Donc on saura pas que c'est toi forcément machin, mais par contre si tu matches, c'est-à-dire que si tu vas sur un site de Daesh et que deux jours après t'achènes trois bonbonnes de gaz et des clous sur Amazon et que enfin bref que tu vas voir une vidéo ensuite sur YouTube comment faire une bombe, bon bah voilà, si ça c'est ça match, après tu vas te retrouver avec des, enfin les mecs vont devoir désanonymiser tes données.
Ce qui est très très drôle.
Ce qui est très drôle, parce que des données anonymes qu'on peut ne plus rendre anonymes, c'est qu'elles sont pas anonymes à la base. Enfin, voilà, c'est...
Exactement, c'est que c'est pas anonymisé.
C'est pas anonymisé du tout, sinon on pourrait pas retracer le truc. Voilà.
Donc,
c'est... Mais...
La donnée effectivement anonymisée, c'est un truc pour rassurer les gens qui ne comprennent pas les aspects techniques, parce qu'à partir du moment où tu peux désanonymiser, ça veut dire qu'elles ne sont pas anonymisées. Alors, tout le monde n'a pas accès, ce n'est pas un fichier texte en clair stocké sur le serveur, ok, mais il n'empêche, ce n'est pas anonyme. Si tu peux désanonymiser, ce n'est pas anonyme.
Voilà.
Y a d'autres points spécifiques qui t'avaient marqué ?
Ah bah, il y en a d'autres. Il y a l'utilisation, par exemple, de ce qu'on appelait des IMSC, des IMSC catchers. Donc, en fait, c'est comme des boîtes noires, sauf que c'est pour les mobiles. C'est-à-dire, je mets ça, par exemple, sur la place du marché, et j'intercepte toutes les communications qui passent, donc texte et voix et compagnie, qui passent dans un rayon de plusieurs centaines de mètres, voire kilomètres. Et là-dedans, je peux, voilà, la police a accès à toutes les infos, quoi. Donc, ça, c'est un peu aussi c'est un peu du DPI aussi, quoi. On collecte tout et après on fait le tri. Donc c'est un peu moche. Il y avait
C'est de la surveillance de masse, quoi. C'est de la surveillance non ciblée. C'est de la surveillance.
Ciblée, ouais.
On rafle tout ce qu'on peut avoir et puis on voit dans l'eau. Fini et puis après je continuerai ma...
Bon, après il y a aussi le fait de vouloir obtenir des sociétés comme Skype, comme les webmails ou peu importe, enfin tous les services qui font de la messagerie ou qui font de la communication, les clés de déchiffrement en fait pour lire tous les messages. Donc c'est à dire que par exemple si on échange là sur Skype, les messages sont censés être chiffrés même si on sait que la NSA a sûrement les clés, mais bon peu importe, enfin voilà, peu importe le service. Même si vous avez un webmail de la mort qui est chiffré, etc., qui est hébergé en France, potentiellement, ils peuvent avoir, enfin, le gouvernement, la police, ou je sais pas qui, mais peut avoir les clés de déchiffrement pour lire tous les messages. Donc, c'est une, c'est, voilà. Donc, potentiellement, Le chiffrement, c'est plus forcément très, très utile, entre guillemets, quoi. Ça sera plus très utile.
Si la loi passe, et,
Si
enfin,
la loi passe,
disons
oui,
que.
mais ce que je veux dire, c'est que c'est ridicule, quoi. En gros, ils veulent les clés de toutes les maisons, quoi. Voilà. Si on peut comparer ça, ils veulent les clés de partout, de tout le monde, pour pouvoir rentrer à n'importe quel moment, dès qu'ils ont un doute ou dès que ça les énerve, quoi.
C'est un truc dont on parlait effectivement dans les épisodes précédents, la question du passe-partout universel, du pied de biche, qui est une question hyper épineuse, quoi.
Voilà, et il y a la rétention des données aussi qui passe
Ah oui,
de.
étendue à 5 ans là.
Ouais, je crois que c'est 5 ans, ouais.
Ouais.
Voilà, donc c'est-à-dire que tout ce qu'on met dans les boîtes noires, là, enfin tout ce qui va transiter, potentiellement, dans 5 ans, on pourra remonter en arrière. Donc c'est-à-dire que là, pour l'instant, vous n'êtes pas suspect, machin, tout va bien, vous discutez, vous envoyez des messages chiffrés sur Skype, etc. Et puis peut-être que dans 5 ans, vous allez énerver quelqu'un et puis qui va pouvoir relire vos messages d'il y a 5 ans avec les bonnes clés de déchiffrement et compagnie, quoi. Donc bon. Ça pose aussi des problèmes, quoi. Il n'y a même pas cette notion de temps qui peut protéger un minimum, quoi.
Et 5 ans, c'est quand même effectivement très très long. Et à vrai dire, ce qui me frustre le plus dans cette histoire, c'est que on a un exemple. Enfin, là, j'en viens à l'article que tu as écrit sur on aura bien un Patriot Act à la française, malgré les assurances de tous les ministres du monde il y a quelques semaines ou quelques mois encore, qu'il n'y aurait pas un Patriot Act à la française. On était tellement prompt à se moquer des Américains.
Ah ouais.
Quand avec les histoires de Freedom Fries et de NSA et de machin, les Américains à me regarder, ils pètent complètement les plombs avec le Patriot Act. On a les révélations d'Edward Snowden il y a à peine 2 ans qui nous ont outrés. Enfin, c'était quelque chose d'inimaginable. Franchement, il y avait quelques personnes qui disaient mais regardez, tout le monde nous, enfin, bien sûr, tout le monde nous espionne, tout le monde nous regarde partout. Et franchement, si on était un petit peu raisonnable, on se disait, bon, là, il abuse un peu le type, mais les pires scénarios catastrophes se sont révélés exacts, et ça allait même plus loin quand on a vu les révélations de Snowden. Et de là que nous, on riait et on était inquiétés et on condamnait ces attitudes américaines inacceptables, on en vient quelques semaines, quelques mois plus tard à faire. Allez, on change 3 virgules et c'est la même chose.
Alors c'est encore pire. Parce qu'en fait, les Américains se défendent un peu là-dessus en disant, nous, on espionne l'étranger. Alors bon, dans le lot, il y a des Américains, parce que à partir du moment où un mec de l'étranger discute avec un Américain, forcément, les communications de l'Américain sont interceptées.
Bah, disons que ça, c'est légalement,
Ça,
ils n'ont
c'est
pas le droit
la.
d'espionner les
Voilà,
Américains,
légalement, ils n'ont pas le droit
mais bon,
d'espionner
avec
leur.
les trucs comme Prism,
Oui, bien
ils
sûr.
interceptent tout,
Bien
mais.
sûr, mais là, nous, on se pose même pas la question, quoi. Limite, on n'espionne pas les étrangers, hein. On espionne que les Français, quoi.
Ouais,
Et on
bah,
fait notre
disons
vie.
que nous, par souci d'équité, on ne fait pas de différence entre
Voilà.
les étrangers et les Français. Mais
Ouais.
c'est. Enfin, bon, je crois que là, en France, la différence aurait pas vraiment de sens à faire parce que. Enfin, bon, bref. Mais le truc, c'est que. On a vraiment une. Je vais dire quelque chose qui est un petit peu. Qui fait un petit peu controverse, je suis sûr, c'est que. On a l'indignation facile. C'est pour ça que j'avais pris un petit peu de recul par rapport aux manifestations sur de Charlie Hebdo il y a il y a 2 mois. J'étais, oui, c'était bien, il fallait le faire, etc. Ok, très bien, mais j'ai senti une sorte de cri de victoire chez les gens qui allaient dans la manifestation et dans la presse et un petit peu partout, genre, ah, regardez, la France unie, on est pour la liberté d'expression, au moment où on était en train de fermer des sites sans intervention du juge, c'est inepte, mais enfin bon, bref, on est pour la liberté d'expression, tout le monde est ensemble, ok, tout le monde est content, ok, super, on est descendu dans la rue. Maintenant, on est en train de voir les prémices d'un Patriot Act à la française et plus personne ne bouge, quoi. C'est genre, ouais, bon. Enfin, il y a eu un petit peu de mouvement dans la presse, mais j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ce pourquoi ils manifestent. La liberté d'expression, la liberté, c'est quelque chose qui ne peut pas être compatible avec ce type de surveillance de masse. C'est pas possible. Il y a. Je vais donner un exemple que j'avais déjà donné, mais pour remettre les choses dans le contexte. Ces sortes de boîtes noires chez les FAI, ces boîtiers IMSI qui vont rafler toutes les données des téléphones, tous ces gens, ce genre d'outils, à quoi est-ce que ça correspondrait si on le mettait dans un contexte un petit peu plus compréhensible ? Ça correspondrait à avoir des caméras absolument partout dans la rue, non seulement dans la rue, mais aussi chez vous. Si le gouvernement installait des caméras partout chez vous, est-ce que vous vous diriez « je rentre chez moi, je peux faire ce que je veux, je peux être comme je veux ». Non, bien sûr, vous savez que vous êtes observé. Et même si vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de objectivement illégal, même si vous n'êtes pas en train de dealer de la cocaïne et de vendre des armes dans votre appartement, eh bien, il n'empêche, vous savez que vous êtes observé par le gouvernement, par les autorités policières. Si tout le monde est observé, eh bien, vous vous dites je vais peut-être être prudent, je vais peut-être pas aller faire telle recherche sur Internet, je vais peut-être pas dire un truc à mon pote pour déconner, ou même exprimer une opinion qui est un petit peu controversée par SMS, parce que, on sait jamais. Et donc, vous ne pouvez pas être, vous ne pouvez pas vous exprimer comme vous le voudriez le faire librement, simplement parce que, à cause de cette observation qui ne vous influence pas directement, mais qui insidieusement vous pousse à modifier votre comportement. Ça, c'est une privation de liberté. C'est évidemment une privation de liberté. Et c'est inacceptable. La surveillance de masse, c'est inacceptable. La surveillance ciblée, bien sûr, il le faut. La surveillance de masse, c'est un énorme problème. Et je te redonne la parole tout de suite, mais il y a une ironie infinie dans un article que j'ai lu sur France 24 ce matin. C'est un article en anglais qui dit que la France fait face à une menace sans précédent de terreur. Et c'est des officiels qui ont fait fuiter des informations selon lesquelles la menace est invraisemblable et qu'elle est énorme. Et sans doute, pour faire encore plus peur au monde entier, ils disent les terroristes ou les terroristes potentiels ou les djihadistes utilisent les techniques les plus sophistiquées qui soient. Ils utilisent du chiffrement, des sites cachés, ils changent de carte SIM tout le temps, ils font... Et donc, ils sont en train d'expliquer à quel point ils sont techniquement sophistiqués et que donc, a priori, même si ils utilisent des logiciels de chiffrement qui n'auront pas de clés disponibles parce que c'est des logiciels de chiffrement qui sont effectivement sécurisés et qui ne sont pas ni Gmail, ni iMessage, ni Hangouts, ni ce genre de trucs, pour lequel le gouvernement n'aura jamais de toute façon les clés de chiffrement. Et donc, cela, on ne pourra pas les attraper par cette méthode, par la méthode de surveillance de masse. C'est uniquement avec des surveillances ciblées, spécifiques, du social engineering, des logiciels espions, ce genre de choses, qu'on pourra les attraper. Alors donc, la surveillance de masse, au final, elle ne sert qu'à observer les gens. Je schématise un tout petit peu, mais je grossis le trait.
Les mecs partent du principe que, en tout cas sur le territoire français, ceux qui préparent des attentats ou qui font un peu comme ce qu'ont fait les Frankwashi, etc., là, c'est pas non plus des super super intello, quoi. Donc ils utilisent des SMS, ils utilisent ils ont pas forcément la technologie de pointe. Voilà, c'est des cellules, c'est des trucs comme ça, ils sont un peu
tout seuls. Ouais, mais tu crois pas que à partir du moment où la surveillance de masse sera généralisée, ils vont se mettre à utiliser du PGP, du logiciel de chiffrement qui n'est pas contournable, justement.
Ou alors ils vont juste aller boire un verre quelque part et puis se voir en live et puis personne n'écoutera. Mais oui, peu importe, de toute façon, il y aura toujours... c'est toujours le jeu du chat et la souris et c'est toujours... C'est toujours la souris qui trouve la meilleure planque. Voilà. Ouais. Mais bon, c'est...
À vrai dire, moi, ce qui m'inquiète encore plus que tout ça, c'est que si on prend un tout petit peu de recul, encore une fois, pour moi, le but... Si on réfléchit presque à un niveau philosophique, le but d'un terroriste, c'est quoi ? Un terroriste, c'est... Enfin, une action terroriste, c'est une action qui ne peut pas engendrer des dégâts physique ou matériel ou enfin effectif suffisant pour réduire la capacité offensive d'un pays. C'est-à-dire que tu peux pas, si tu es terroriste, c'est parce que tu peux pas faire une guerre conventionnelle à un pays que tu veux attaquer.
Ouais.
Tu n'as simplement pas les moyens physiques. Les terroristes, ils n'ont pas une armée, des tanks, des chars, enfin bon. Donc, leur arme, dans le nom, c'est la terreur. Ils ne peuvent pas tuer suffisamment de Français pour faire une attaque militaire. Donc, ils vont faire des attaques ciblées qui vont nous terrifier. Pourquoi ? Pour que, sous l'influence de la peur, on change. On perd ce qui fait notre identité, notre âme, notre liberté. Et le pire, c'est que à la fois les attaques du World Trade Center et les attaques ici de Charlie Hebdo et les menaces qu'on a en France semblent être en train de réussir. Enfin, c'est terrible. On est en train d'engendrer des outils, des actions de surveillance de masse qui réduisent ce que ça veut dire d'être français, de vivre dans la démocratie, de vivre dans la liberté. Enfin, ils sont en train, je sais pas, moi ça me, ils sont en train de réussir quoi.
Ouais, non, c'est ça. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est pas, enfin, alors moi, tu vas encore dire que je suis un parano, hein, mais ce projet de loi, il est prêt depuis un moment, ou en tout cas, il est en brouillon depuis un moment. C'est pas forcément non plus, on prend le terrorisme toujours encore en prétexte, mais l'idée c'est juste de pouvoir filtrer tout le monde et voir ce que tout le monde fait pour détecter effectivement des criminels potentiels ou des gens qui sortiraient du rang. Et après, le truc c'est qu'après, tu vois, j'avais vu une analogie un peu marrante, bon, toujours avec la précédente guerre, mais par exemple, les mecs qui faisaient, enfin, les résistants français. Alors, d'un point de vue allemand, c'était des terroristes. Ils faisaient sauter des trains, ils tuaient des nazis et compagnie. Donc voilà, c'était des terroristes, mais c'est quand même des mecs qui ont aidé à la libération de la France. Avec un système comme ça, on peut plus être entre guillemets résistant. On peut plus se battre pour un truc qui est juste, quoi. Parce que finalement, on est tous transparents, on est tous en slip, on est tous analysés. Et à partir du moment où on pense à un truc, de toute façon, enfin, rien que les requêtes qu'on tape sur Google, c'est ce qu'on a dans la tête, c'est ce qu'on a dans le cerveau, donc ça se passe entre Google et nous, mais s'il y a le gouvernement qui regarde le truc, y a Google qui est au courant, il y a le gouvernement qui est au courant, et puis bah nous, mais c'est vraiment ce qu'on a dans la tête, quoi. La moindre question, le moindre truc qu'on se demande, qu'on se pose de comment ça marche, etc., qu'on n'oserait même pas demander à son voisin ou à n'importe qui d'autre de ses amis, on va le taper sur Google parce que Google, voilà, Google a la réponse. Donc forcément, potentiellement, si le gouvernement espionne tout ce qu'on fait sur le net, il en sait beaucoup plus sur ce qu'on a dans la tête que n'importe qui de notre entourage. Hein. Et surtout sur les trucs inavouables, les trucs sur lesquels on se pose des questions. Voilà. Et après, ça peut faire des dossiers, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait un peu à quoi vous vous intéressez et ce qui vous passe par le cerveau, bah, ça fait des dossiers, quoi. Ça reste 5 ans, là, on peut s'en servir contre vous à n'importe quel moment.
Et puis, c'est pas uniquement... Comment dire ? C'est pas uniquement la problématique de ce truc, c'est pas genre on va avoir machin qui download du BitTorrent par BitTorrent et donc on va le mettre en prison. C'est pas uniquement ça, c'est imaginer, oui, c'est les dérives, oui, ça va très loin, oui, machin. Mais imaginez quelqu'un qui a un problème avec un opposant politique ou un opposant qui fait un petit peu trop de bruit ou qui, je sais pas, qui veut gagner un marché quelque part avec un appel d'offres public. Tu vas chercher un petit peu ces centres d'intérêt, peut-être qu'il y a des trucs un petit peu bizarres. Tu fais passer un petit mot discret, tu le fais fuiter à la presse qui va juste pour les mettre sur la piste et ensuite ils vont essayer d'enquêter pour découvrir le, entre guillemets, scandale. Ça peut provoquer des problèmes, quoi. Et on va dire, oui, c'est de la dérive, oui, c'est machin. On a des dizaines d'exemples dans l'histoire d'utilisation qui n'était pas prévu de ce type d'outil. La plus fameuse d'entre eux, la plus célèbre d'entre eux, étant bien sûr les écoutes de l'Élysée de Mitterrand dans les années 80. C'était, le pire, c'est que c'était exactement ça. C'était des outils d'écoute pour but d'enquête policière qui ont été utilisés de manière plus que scandaleuse par membre du gouvernement, bien sûr, c'était le président. Mais on ne peut pas dire que ça ne peut pas arriver, que ça ne va pas arriver. Donc, il faut le cadrer aussi bien que possible. Et là, on n'est pas du tout cadré, quoi.
Ouais. Et ouais.
Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que là, c'est très bien, on se plaint, on gesticule, machin. Bon.
Il n'y a pas 36 solutions.
Bah, à mon sens, d'une part, on peut en parler autour de nous. Vous tous, hein, vous qui êtes auditeurs simples, lambda, soyez pas non plus hyper désagréables, allez pas agresser vos conjoints au dîner en leur disant « mais tu te rends pas compte, machin ». Non, mais par contre, si le sujet arrive, je pense qu'il est bon d'exposer ces problèmes auxquels on pense pas forcément, la question des caméras dans la maison, la question des dérives, la question de... Enfin bon, bref, tout ça, la question de la liberté d'expression. Et je pense qu'il y a une autre chose dont je suis... assez content d'avoir parlé avant que tout ça ne devienne un vrai problème, c'était le fait de soutenir la Quadrature du Net, qui est à mon sens l'une des seules organisations en France à poser une voix d'opposition, enfin même pas, une voix qui représente les utilisateurs, les citoyens dans l'espace numérique, contre ceux qui voudraient abuser de leur pouvoir. Encore une fois, moi je ne suis pas toujours d'accord avec eux, mais il faut qu'ils existent, donc soutenons-les. Financièrement, j'en parlais avec certains d'entre eux à la projection de Citizen 4 il y a quelques semaines, et ils disaient financièrement, maintenant ça va, grâce à Corben qui a fait un article sur nous et d'autres qui les ont repris, financièrement ils sont bons, mais par contre, tenez-vous prêts à appeler vos députés quand ils nous diront de le faire. Et faites-le vraiment. Ils ont des outils hyper simples qui vous donnent le numéro de téléphone d'un député européen, d'un député français. Ils vous disent les points à mettre en avant et il faut le faire, c'est hyper important. Appeler un député pour lui expliquer pourquoi on pense qu'une loi pose des problèmes, ça montre qu'il y a un vrai intérêt, et non seulement ça peut lui faire comprendre un truc qu'il n'avait pas compris, mais en plus, ça lui montre que c'est les gens qui vont voter pour lui, donc il voit son intérêt hein, dans le truc, les gens qui vont voter pour lui le surveillent et voient ce qu'il va faire et le juge en fonction de ce qu'il va voter.
Ouais.
Et là encore, c'est le principe de la démocratie, il faut faire marcher la démocratie.
Mmh. Bien dit, Patrick.
D'accord. T'as rien à ajouter ?
Non, à part, c'est ça, appeler députés, faire des manifs, ou j'en sais rien. Le problème, c'est que ce projet de loi, il est infâme, tout le monde gueule dessus, et on peut prendre les paris, hein, ça passera.
Bah, écoute, moi, je pense qu'on peut faire changer les choses, et le seul moyen, finalement, si on ne retient qu'une chose, c'est appeler les députés. Au final, c'est eux qui votent les lois, et c'est eux qui prennent la décision. Et si on les appelle, je vous garantis que si vous passez une demi-heure, un jour, un soir, à un moment, une pause midi, à appeler un député, si chacun des auditeurs du Rendez-vous Tech fait ça, quand il faudra, hein, on vous dira, la Quadrature du Net vous le dira, si chacun des auditeurs du Rendez-vous Tech fait ça, je vous garantis qu'on est déjà, rien qu'à nous qui sommes une partie infime, on est suffisamment nombreux pour faire bouger quelques têtes, quoi. Donc ouais. C'est la chose à faire à mon sens, quand il faudra. Bon. Allez, on enchaîne sur Windows 10. Là, des choses un petit peu plus joyeuses. On a passé beaucoup de temps à paniquer. un petit peu plus joyeuse, c'est la joie, Windows 10 gratuit pour tout le monde.
Ouais, youpi, wouhou.
Je vois que tu cliques, j'entends que tu cliques partout sur.
Ah, je clique, c'est ouais. L'excitation, je clique tellement je suis
sur Microsoft. Bon, t'as suivi un petit peu l'histoire de Windows 10 gratuit ?
Ouais, bah j'ai suivi, oui, ça fait un moment que je suis, mais Windows 10 gratuit, je connais le fin mot de l'histoire, donc Patrick,
d'accord, tu vas pas spoiler. Alors,
je te laisse raconter.
On sait que Windows 10 est gratuit pour les utilisateurs de Windows 7, de Windows 8, je crois pour Windows XP même. Ils vont passer tout le monde à Windows 10. Et là, on a entendu dans la semaine une rumeur selon laquelle, même pas une rumeur, une annonce de Reuters selon laquelle Windows 10 serait aussi gratuit pour les gens qui ont piraté Windows 8. Et là, on se dit, mais... mais qu'est-ce qui se passe?
Moi, je me suis dit, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est une bonne stratégie parce qu'au final, par exemple, ce que fait, c'est ce que fait Apple avec OS X, c'est ce que fait, enfin, je veux dire, l'OS, c'est gratos, tout le monde peut. Et ça permettrait.
Ouais, Apple, tu payes quand même ton ordinateur avec, donc.
Oui, bien sûr, mais Microsoft a d'autres services derrière à vendre. Ils ont leur OS là.
Bah, maintenant, oui, maintenant, ils s'orientent dans cette direction.
Maintenant, ils s'orientent dans cette direction, mais l'OS, c'est plus forcément le truc qui va leur amener plus de pognon. Mais c'est clair que c'est leur produit phare. Et l'OS, si tu le mets gratos pour tout le monde, ça a un sens. Déjà, ça évite la segmentation, ça évite les problèmes de virus et compagnie, parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes de sécurité avec des vieilles versions, etc. Si tout le monde met à jour au même moment, plus ou moins, ça protège pas mal de trucs. Voilà, moi je trouvais que c'était une bonne stratégie. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Je te laisse expliquer, Patrick.
Bah, en fait, tout le monde s'est dit oui, c'est pour. En fait, moi, je pensais que c'était uniquement en Chine au départ. Ça me paraissait tellement gros. Je pensais que c'était uniquement en Chine pour donner on oublie tout. Toute la Chine va passer à Windows 10 officiel. Et comme ça sera bien. D'ailleurs, sur Twitter, je crois que c'était l'affreux poète, très dignement nommé, qui m'a dit ça. Et je lui ai dit, mais non, c'est que la Chine. Donc voilà. Et en fait, il semblait que c'était pour tout le monde. Et puis, en fait, non. Ça sera. Il y a un article de Paul Theroth qui a expliqué que Reuters avait mal interprété un truc qu'avait dit Microsoft et que Windows 10 ne serait pas gratuit pour les pirates, pas du tout. Et là, on se dit, ah mais alors, ok, pas du tout. Mais en fait, bon, peut-être un peu.
Non. Mais
le truc vrai, c'est que les gens qui ont piraté Windows 8. Ils ont en fait Windows 8 qui fonctionne avec des restrictions. Ils n'ont pas de support ni de ils n'ont pas tous les services Microsoft, mais Windows 8 fonctionne. Il y a des restrictions sur la résolution, je crois, sur certaines choses. Mais il fonctionne. Et ce qu'on ne nous dit pas, en fait, c'est qu'en fait, il n'expire jamais, ce Windows 10 piraté. Eh bien là, Microsoft va mettre à jour Windows 8 piraté en Windows 10 piraté, c'est-à-dire qu'il ne va pas tout à coup devenir Windows 10 Genuine, ce qu'ils appellent Windows 10 Genuine, ça veut dire véritable, mais il va rester Windows 10 Non-Genuine, donc en fait Windows 10 piraté. Donc il sera quand même mis à jour, mais il ne sera pas mis à jour comme si vous l'aviez acheté. Donc
ouais,
c'est
mais tu vas avoir la pop-up qui va te dire vous n'avez plus que 30 jours avant de faire l'enregistrement, non? Et après, bah, il va te saouler, quoi.
Bah, il te saoule, mais il fonctionne quand même.
Oui, mais avec ta version précédente que t'avais piratée, craquée, elle te saoulait pas.
Non, mais bon, à mon avis, Windows 10 piratée, craquée, tu peux aussi le repirater, craquer pour qu'il arrête de te saouler.
Non, mais en gros, c'est tu vas pouvoir mettre à jour ton Windows piraté en Windows légitime, même si il est non activé, quoi.
Oui, ça sera un Windows 10 non activé, mais ils n'ont pas été très précis. Ça se trouve, ça sera Windows 10 limité parce que non légitime.
Ouais, peut-être.
Et je suis sûr qu'il y aura des pop-up, qu'il y aura tout ça, mais en fait, c'est assez malin quand même, parce qu'ils permettent au parc de Windows 8, parce qu'il est quand même important, le parc de Windows 8 piraté, eh ben, ils les passent quand même à Windows 10, donc ils pourront dire qu'ils ont une unité d'OS avec une base d'OS installée énorme, parce que même les piratés seront passés sur Windows 10, mais ça ne sera pas Windows 10 complet quand même. Ouais, voilà. Donc... c'est malin, quoi. C'est pas bête.
Bah, disons que quand ça va sortir officiellement, par exemple, je me mets dans la peau d'un mec qui veut vraiment avoir toujours le dernier truc, ce qui est pas forcément faux avec mon état d'esprit. je veux dire, je vais avoir envie de passer mon Windows 8 pirate en Windows 10, quitte à payer, parce que j'ai pas forcément envie d'attendre une version sans virus sur un site de torrent dans un mois, quoi. Donc bon. Il y a peut-être aussi un... Ça va peut-être convertir, quoi. C'est ça que je veux dire. Peut-être que les pirates vont devenir des gens qui vont acheter leur Windows parce
c'est
que
possible,
ça sera super facile. Ils auront juste à cliquer sur Update et à payer direct avec leur carte bleue dans l'OS et ça sera plié, quoi.
Ouais. Ouais, non, t'as raison. C'est tout à fait possible que certains se soient convertis aussi. Et puis, c'est cohérent avec la politique de Microsoft. Comme on le disait, ils vont avoir une base installée énorme. C'est toujours payant pour les entreprises. Tu disais tout à l'heure qu'ils le donnent à tout le monde, je crois, mais les entreprises devront toujours payer Windows 10, ce qui est une énorme partie de leur business. Et c'est le meilleur de tous les mondes, ils seront présents partout. Et ils ont aussi annoncé, toujours dans cette philosophie, différentes choses, comme par exemple le fait que Cortana l'assistant numérique, l'équivalent de Siri de Microsoft, sera disponible bientôt sur iOS et Android comme une app individuelle, ce qui est surprenant parce que c'est vraiment un produit Microsoft, mais encore une fois, ils essayent d'être présents partout. Et c'est vraiment une politique intéressante parce que, comme tu le disais là encore, ils ont d'autres services ensuite qui vont vouloir vous vendre. Et pour pouvoir vous les vendre, ils vous amènent dans leur monde. Ils vous donnent la possibilité, en mettant tout le monde sous Windows 10, ils vous amènent dans leur monde en sortant toute leur suite logicielle sur les plateformes concurrentes. C'est vraiment un mouvement hyper important de Microsoft. C'est très audacieux, quoi.
Ouais, bah, puis j'imagine que le profil sera en ligne. Enfin, voilà, ça sera. Oui. Donc, si je commence à demander des trucs sur mon PC et qu'après je demande plus ou moins les mêmes choses ou en rapport sur mon Android ou sur mon iOS, bah, peut-être que ça va coller, puisque de toute façon, ça sera sûrement sur le cloud magique, le nuage.
Le nuage magique de Microsoft.
Ouais.
Bon, d'autres petites news chez Microsoft. Windows Hello et Microsoft Passport, en fait, ils vont avoir des moyens de débloquer Windows, de se loguer dans Windows avec des moyens biométriques, votre doigt, l'iris, le visage, etc., avec des capteurs très spécifiques. Hein, toutes les machines ne les auront pas forcément, mais pour éviter, par exemple, que si vous vous débloquez avec votre visage, bah, vous mettez une photo devant et ça débloque. Non, là, ça ne marchera pas. Il y aura des capteurs spécifiques, etc. Ouais. Ils ont aussi annoncé que c'est pratique parce qu'on n'a plus besoin de se souvenir du mot de passe, quoi.
Oui, mais ces trucs-là, c'est toujours contournable d'une manière ou d'une autre. Donc, moi, j'ai hâte de voir ça. Bah,
comme les mots de passe, hein.
Oui,
tu sais, au final.
Comme les mots de passe, c'est vrai, comme les mots de passe. Mais j'ai hâte de voir les mecs qui vont se pencher sur la question et qui vont te dire qu'avec une photo que tu chiffonnes, ça va marcher. Ou avec un doigt, tu trempes dans la cire et ça va marcher. Enfin, tu vois, c'est.
Mais c'est vrai. Mais le problème, c'est que. Il y a tellement de problèmes avec les mots de passe déjà qu'il est temps qu'on trouve d'autres solutions. Et là, c'est Microsoft qui va de l'avant,
oui,
comme d'autres.
Bien,
hein.
Oui.
Il y a Google, c'est la Fido Alliance, c'est ça, qui essaye de trouver des alternatives aux mots de passe et qui fait des trucs hyper intéressants.
Ouais, mais les données biométriques, c'est quand même un truc... c'est comme si je finais mon ADN à Microsoft pour qu'ils me reconnaissent.
Ah, ça,
donc, tu donnes quelque chose à Microsoft...
Ouais, ouais. Bon, bah, non, mais les données, c'est comme... Ça reste sur la machine. Ouais. Ça ne va pas dans le cloud, en fait. Ça reste sur la machine. Rien n'est envoyé dans le cloud.
Ouais.
C'est pour ça que c'est pas mal fait, au final. Donc, bon, bref. on verra ça plus tard. Ils ont aussi annoncé que leur nouveau navigateur, le nom de code Spartan, toujours référence au jeu vidéo Halo, ne s'appellerait pas Windows Explorer. En fait, Internet Explorer. Ils ont une image tellement dramatique avec Internet Explorer qu'ils veulent plus rien avoir à faire avec, quoi. C'est un rebranding un nouveau projet, un nouveau truc, mais.
Ouais, non, mais ils vont Internet Explorer, je pense qu'il va rester un petit moment encore.
Bien sûr.
Oui, ils vont basculer sur Spartan. C'est le nom de code, en tout cas, pour l'instant, qu'on connaît. Et ça va être un nouveau navigateur complet, quoi. Je pense pas que ça soit un rebranding d'Internet Explorer. Je pense que c'est un nouveau projet, nouveau navigateur. On part sur des bases saines et
Ils font les deux, quoi. Non seulement, c'est-à-dire que le nom... Et ils ont fait des enquêtes auprès des consommateurs et le nom Internet Explorer a des connotations hyper négatives. Donc, ils ont décidé de clairement s'en séparer.
Il est temps qu'ils s'en rendent compte.
Oui, c'est sûr, c'est pas faux. Ils ont aussi ils lancent en preview Skype for Business et Office 365 pour les utilisateurs d'Office 365 et Skype for Business pourrait... avoir un numéro de téléphone, ça pourrait être une sorte de MVNO, en fait, presque. Vous auriez un numéro de téléphone avec Skype for Business qui vous suivrait, qui pourrait aussi faire office d'opérateur.
Ah, oui, d'accord.
C'est-à-dire que ça serait une sorte... Si j'ai bien compris, maintenant, tu me fais douter, d'accord. Du coup, mais...
Non, mais je savais quoi. Non, mais pourquoi pas, oui, c'est la suite logique, pourquoi pas, ouais.
Bon, ça arrive... cet été. Et enfin, on avait des informations selon lesquelles Cyanogen aurait une participation de Microsoft dans ses investissements. Finalement, ça sera visiblement pas le cas. Donc Microsoft n'investit pas dans Cyanogen. C'était quelque chose d'audacieux, là encore, de Microsoft, mais il semblerait que finalement, ils aient reculé.
En même temps, ils ne sont pas très fiables, les mecs. Hein. Donc, si... Faut voir, quoi. C'est ouais. Vrai que dealer avec des mecs qui ne sont pas très fiables, c'est chaud, quoi.
C'est pas faux. On a, y a des gens qui sont venus mettre des commentaires. Je suis désolé, je me souviens plus du nom de la personne, mais il avait fait un commentaire très intéressant sur Cyanogen. Et justement, le fait qu'il soit pas fiable, le fait qu'il y ait des gros problèmes avec la source de l'OS Cyanogen, parce qu'il a été développé en logiciel libre à la base. Ouais. Et là, ils essayent d'en faire une entreprise commerciale. Et donc, ça pose d'énormes problèmes avec ce qu'ils font du code qui était à la base pas censé être utilisé comme quelque chose de commercial. Et ouais. En plus, ils sont pas très fiables avec les histoires en Inde et tout ça. Et avec OnePlus et tout ça. Donc, c'est... Bon, peut-être que c'est pour ça que Microsoft a fait Arcus.
Peut-être, peut-être.
Bon... Voilà nos deux gros morceaux. Le premier sur les Freedom Frites et le deuxième sur Windows 10 gratuit. J'aime bien Freedom Frites.
Freedom Frites. Ouais. C'est quoi ça? C'est le.
Bah, c'est les, les Freedom Fries du Patriot Act, mais à la française.
Ah, d'accord.
T'as vu?
Ouais, ok.
Non, c'est un petit peu compliqué, c'est vrai. mais bon, moi j'aime bien cette.
Non, c'est chouette.
Donc on va passer aux news et rumeurs, mais avant ça, je vais quand même vous parler un petit peu des gens que j'adore, des gens qui me soutiennent dans mes efforts financiers de podcasteur indépendant, à savoir les gens qui me soutiennent sur Patreon, et je vais en remercier encore une petite série aujourd'hui. Je remercie du fond du cœur Olivier de Robien, Tsoalf, Mathieu Enras, Nico Brocchi, Sébastien Magot, Gleb Patou, c'est pas moi, c'est Patou, Stan Ribaud, Tournivelle et Pierrick Leborgne. Merci à vous tous de soutenir le Rendez-vous Tech. Sans vous, je ne pourrais pas manger. Sans vous, je ne pourrais pas payer mon loyer. Et sans vous, il n'y aurait sans doute plus de Rendez-vous Tech. Donc, je vous remercie du fond du cœur. Je le fais à chaque fois et c'est à chaque fois sincère. D'ailleurs, j'ai fait...
J'ai une question quand même, Patrick.
Oui, vas-y.
Toi qui es quelqu'un de très poli, qui dit jamais de gros mots, si par exemple, t'as un certain Maurice fils de pute qui s'inscrit et qui contribue, est-ce que tu vas dire son nom?
Ah bah écoute, oui, il faut.
Ou si tu vas dire son... monsieur fils de maman, ou tu vas essayer
bah,
de gruger.
Peut-être, oui, ouais. C'est possible. J'ai essayé de faire passer un filtre Google qui va un petit peu adoucir tout ça.
C'est
tu
ça,
vois.
C'est la boîte noire de Patrick.
Exactement. Mais donc j'ai fait une petite, si vous ne l'avez pas vu là, je m'adresse, c'est juste entre vous et moi les patriotes, hein, les gens qui contribuent, si vous ne l'avez pas vu, j'ai vu une petite vidéo sur une impulsion de Corben d'ailleurs. Je lui racontais mes aventures de podcasteur pro, mes déboires, mes difficultés, mes joies, il y a une semaine ou deux.
Ah, tu l'as fait,
et je disais, mais c'est... je l'ai mise, c'est exclusif au Patriot en fait.
D'accord.
C'est sur Patreon. Et Corben m'a dit ouais, tu devrais raconter ça à tes Patriotes, c'est sympa, ça te fait rentrer dans ton quotidien de podcasteur pro. Donc j'ai fait une sorte de, je sais pas, c'est un mini podcast vidéo, c'est juste moi devant la caméra, qui parle pendant une petite demi-heure et qui vous raconte comment ça se passe tout ça. Donc si vous l'avez pas vu, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur Patreon. C'est bloqué aux Patriotes, hein, c'est uniquement eux qui ont
pas
droit.
Je vais être obligé de te donner des sous.
Voilà.
Tiens, il y a un truc dont je voulais te parler et je pense que ça pourrait intéresser les gens. J'en ai pas encore parlé officiellement parce que j'ai pas encore ma liste complète, mais j'ai décidé que tous les mois j'allais filer 50 euros pour la cause. Et alors, c'est pas forcément un don à la quadrature ou ce genre de truc, mais je me suis fait une petite liste et j'ai divisé ces 50 euros par 5 euros par tranche, enfin par billet de 5, ouais. Quoi, en gros. Et donc, je cherche 10 projets. Donc là, j'en soutiens 2. Voilà, ok, je donne 5 euros tous les mois. Mais c'est pas des trucs où j'ai une contrepartie ou quoi que ce soit, hein. C'est pas des Kickstarter et compagnie, hein. C'est vraiment voilà, tel blog qui a un peu de mal, je lui file 5 euros parce que je l'aime bien, tel site là j'ai filé 5 euros à Stereo Mood parce que j'aime bien ce qu'ils font, enfin j'aime bien la musique et compagnie, et ils ont un peu de mal aussi, donc voilà, et donc pour l'instant ça, je complète au fur et à mesure, et je me suis fait un petit truc comme ça, voilà, disons ouais. 50 euros c'est pas grand chose et puis ça aide quoi.
Ouais, bah tu sais, c'est un petit peu l'évolution de mon état d'esprit est aussi, m'a aussi amené à ce genre de réflexion. Je soutiens différents projets sur Patreon notamment. Je soutiens aussi la Quadrature, mais ça j'en ai assez parlé. Je soutiens Wikipédia, mine de rien. Ils ont chaque année du mal à boucler. J'ai carrément moi un truc récurrent mensuel sur Wikipédia.
Ouais.
La Quadrature, malheureusement, ils peuvent pas faire un mensuel à moins d'une certaine somme et donc la Quadrature, je le fais tous les ans plutôt que tous les mois, mais du coup c'est pas automatique, c'est un peu dommage. Il y a différents projets sur Patreon notamment. Alors il y en a qui sont en anglais mais qui ont les sous-titres. Il y a Crash Course dont j'avais déjà parlé, qui est super bien, qui est des vidéos éducatives super sympas et vraiment c'est des séries en fait, des séries de 10 ou 20 ou 30 sur un même sujet. Il y a plein de vidéos éducatives, j'en avais parlé, il y avait plein de gens qui m'avaient envoyé des liens vers des vidéos en français qui étaient pas mal du tout, mais qui étaient genre une vidéo par-ci par-là. Ce qui est intéressant avec Crash Course, c'est que ça couvre tout un sujet de A à Z, alors simplifié pour YouTube, etc. Mais franchement, ils ont de tout, quoi. Et c'est soutenu par PBS aussi, le système américain de soutien, enfin de publication, de broadcasting, de télé et de radio public, qui est soutenu par des dons d'ailleurs. Ils ont beaucoup plus cette culture du soutien. Bref, donc Crash Course, c'est vachement bien. J'ai regardé une série sur l'astronomie qui était passionnante. Et oui, il y a plein de petits projets que je soutiens aussi. Et je me suis dit, en fait... je vais me réserver, 30 euros, 40 euros, ou même moins, vous pouvez faire 10, 20 euros par mois et vous dire, je vais donner 2 euros par-ci, 1 euro par-là, 3 euros par-là, et soutenir les projets qui vous aiment. Je soutiens certains sites de jeux vidéo, notamment, je soutiens Gamekult. C'est l'idée de se faire une petite cagnotte qui n'est pas forcément énorme, ça peut être 10 euros, ça peut être 5 euros, peu importe. Moi, j'aime bien forcément, hein. C'est de ça que je vis, mais je le fais aussi.
Non, c'est bien. Bon, voilà.
Très bonne initiative, Corben.
Merci.
Bon, on passe aux news et rumeurs avec une news de Free qui a révolutionné le monde de... Non, ils avaient dit, soyons honnêtes, Xavier Niel avait dit, on va faire un petit truc. Et ils ont fait effectivement leur petite conférence il y a 2 semaines où ils ont annoncé leur Freebox Mini 4K. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit ?
Eh bien, une Freebox Mini 4K, c'est une petite Freebox que tu vas pouvoir acheter chez toi, sur laquelle il y a Android TV, et avec tous les services Android, tous les services Google, donc tout ce qu'on peut imaginer, quoi, les jeux, les applications, la télé, etc. etc. quoi.
Oh, mais c'est super !
Mais c'est super, c'est génial ! Je te laisse continuer.
Ouais, bon, ok. Alors, plusieurs choses, je vais te laisser donner l'avis sur la googlisation de Free, qui est là un petit peu orientée. Mais juste avant, on s'est dit, pour préciser, on s'est dit qu'il y aurait donc Netflix sur la Freebox, puisque c'était Android TV. En fait, non, Android peut bloquer l'installation de certaines apps en fonction de la configuration de la box. Et là, visiblement, la box n'est pas assez bonne pour faire tourner Netflix, donc il n'y a pas, c'est pas installé. L'autre grande question, c'était, c'est Google, donc est-ce qu'on va pouvoir avoir YouTube, qui avait des problèmes chez Free depuis des années et des années, des problèmes insupportables ? Visiblement, il y aurait eu un accord sans doute financier qui a été trouvé entre Free et Google pour débloquer la situation YouTube en coordination avec cette Freebox Google TV, enfin Android TV. Donc, il y a bien un accord trouvé avec Google, ce qui est un petit peu... Bon, on ne connaît pas les détails, mais il y a un accord. Et YouTube tourne enfin, normalement, tourne correctement chez les abonnés Free après 3 ans.
C'est ça.
Bon, voilà pour la... Et évidemment, elle est en 4K. Le seul problème, c'est que le 4K, c'est pour la télé, mais en même temps, il n'y a pas le DVR, il n'y a pas le lecteur de Blu-ray qu'il y a sur la Freebox.
Non, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut... C'est pour la flamme.
Non, la 4K, oui, bien sûr, mais je veux dire, la mini 4K, la Freebox en question, on la branche sur la télé, mais c'est en plus, du coup, de la Freebox classique, parce que si on veut le lecteur de Blu-ray, le DVR et... Enfin, je sais pas très bien à quoi elle sert. C'est sur une deuxième télé ou je sais pas, bref.
C'est ça, ouais, ça peut marcher sur une deuxième télé et voilà quoi. Mais il n'y a pas vraiment de. Enfin, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Enfin, en tout cas, moi, je vois mon niveau. Alors, les gens trouvent ça génial parce que. Je vais partir sur mon délire. Hein. Tu vas m'arrêter.
Mais c'est bien, une Android TV, pour ceux qui aiment, c'est très bien. Mais...
Alors, moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est deux choses. Déjà parce que Free, ils sont connus pour être un peu. On est les Gaulois, on emmerde les autres, on fait notre truc nous-mêmes. Google, c'est les méchants, ils nous font chier avec les tuyaux, etc., etc. Donc effectivement, la box TV de Google, de Free était un peu merdique, mais comme toutes les autres du marché, hein, pour les avoir quasiment toutes testées, il y en a pas une pour attraper l'autre, quoi. Mais bon, c'était du fait maison. Et là, avec tout ce qui se passe actuellement. On parlait de Snowden tout à l'heure, de tout ce qui part aux États-Unis et de la centralisation des services, là où d'autres essayent de décentraliser justement, parce que c'est comme ça qu'on arrivera, on va dire, à sortir du truc. Free fait un pas en arrière et fout tout le monde, je vais pas dire d'office, mais bon, en tout cas, tous ceux qui prendront cette box, direct dans les pattes de Google, quoi. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on va regarder, tout ce qu'on va acheter, tout ce qu'on va faire, ça va se passer avec Google. Donc oui, c'est bien, elle est super, c'est Google, c'est top et tout, mais je trouve que ça colle pas avec l'image la volonté qu'avait montré Free jusqu'à présent, quoi. Le côté un peu gaulois, un peu on a des gros bras et on résiste face à l'envahisseur, ça y est plus, quoi, malheureusement. Donc bon, c'est commercial, hein. Peut-être que d'ailleurs c'est YouTube, enfin c'est Google qui a dit, écoute mec, si tu veux que ça se passe bien avec tes tuyaux et si tu veux qu'on paye, tu mets Android TV sur ta prochaine box, hein. Parce que nous, on va faire du.
Ouais, enfin, en l'occurrence, c'était Free qui prenait Google en otage, là, quand même, pas le contraire. Donc,
ouais, ils ont peut-être. Ça dit... fait partie des négociations, on ne sait pas.
Ah oui, ça, sûrement. Mais à mon avis, c'est plus Free qui a regardé. Oui, enfin, bon, on ne sait pas.
On ne sait pas, mais... on ne saura jamais. Mais bon, voilà, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, après, c'est un choix. Hein, si c'est un choix commercial. Donc, il y a déjà Bouygues qui a fait la même chose. Et ça concerne que la box TV, de toute façon, pour l'instant. À la box classique pour accéder au net et pas encore sur Android. Et il y a une Freebox 7 qui est prévue. On verra ce qu'il y a dedans. D'après ce que j'ai cru comprendre, ça serait pas forcément une box Android. Donc, je trouve ça un peu bizarre. Alors, peut-être que si, peut-être que non. On verra bien.
Alors peut-être, du coup, si c'est pas une box Android, peut-être que ça faisait partie effectivement des négociations et que en fait ils la font pour le principe. Bon, on sait pas, on spécule là. Moi, à vrai dire, il y avait un truc qui m'a marqué dans cette histoire dans cette présentation, c'est que j'étais un super défenseur de Free et je suis toujours convaincu qu'ils ont révolutionné. L'industrie du net, c'est grâce à eux si aujourd'hui on a des abonnements Internet à des prix abordables. Et ils ont fait la même chose avec le mobile. Je le répète régulièrement et j'en suis convaincu. Mais depuis qu'ils ont fait ce blocage avec YouTube, il y a un truc qui s'est cassé et leur... Ouais, on est des geeks. Il y avait par exemple sur l'écran de la conférence, l'écran dans le dos de la scène, il y avait écrit LEET en LEET speak, donc L33, ou je sais plus s'ils avaient fait 733, ouais. Machin, avant que les gens n'arrivent. Et là, je me disais, mais. Enfin, au bout d'un moment, à force de faire, de lever le drapeau, ouais, on est des geeks, à
ouais,
n'importe
y a
quel moment.
Un poney dans le code source. Ça fait beaucoup. Ils mettent les annonces en base 64, donc ça fait un peu chiffré, c'est mystérieux.
Ouais, c'est. Enfin, je sais pas, moi je trouve que ça fait un peu. Ils en font un peu trop, je trouve.
Ah, c'est pour exciter le journaliste, quoi.
Ouais, mais c'est. Du coup, ça devient. Bien sûr, c'est des gens qui font ça pour le marketing, mais. Je me disais que Free, il y avait... Enfin, c'est un peu comme tu dis, il y avait une certaine authenticité dans l'intention. Tu disais, ouais, c'est les Gaulois, ils font ça, c'est des vrais, c'est des hackers, c'est des geeks. Et je doute pas qu'ils en soient, mais à un moment, ça devient presque instrumentalisé. Et du coup, ça nuit à l'authenticité. Et objectivement, leur nouvelle Freebox, leur annonce, c'était sympa. On a des objections si on veut, mais moi, ils n'ont pas réussi à me regagner, alors que objectivement c'était bien, mais le dégât qu'ils ont fait à leur image auprès de moi avec cette histoire de YouTube et d'autres trucs a été violent et j'ai pas réussi à être intéressé par leur truc, quoi. Mais ouais, c'est complètement subjectif, mais...
Moi je pars du principe que la box télé c'est pas non plus un truc de ouf. En plus maintenant qu'il y a Android TV dessus, tu prends n'importe quelle box chinoise, même si t'as pas les services Free avec, t'as la même chose, quoi. Donc c'est pas ça, c'est pas très excitant quoi. Alors ok, elle est fabriquée en France par des ingénieurs français et compagnie, mais l'OS, voilà. Moi, ce qui me dérange,
Bon, pas.
c'est juste que les gens qui sont pas, on va dire, informés ou éduqués, qui savent pas forcément ce qu'ils font, ils vont l'installer, ils vont avoir ça chez eux. Et puis bah voilà quoi, ils vont acheter des applis, ils vont consommer du Google, toutes leurs données vont partir là-bas et il y a même pas une petite mention qui dit attention quoi. Enfin, il n'y a pas de choix quoi, enfin, ça part là-dessus. Mais
C'est
bon, après
noté.
ça, c'est un
Mais
c'est noté, mais c'est un
justement,
choix.
justement, les choix, les alternatives, la liberté, tu peux nous en parler puisque Tristan Nitto a rejoint Cozy.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est que ça, Cozy?
Cozy, c'est un système,
Alors,
on va dire.
pardon, Tristan Nitto, qui est
Ouais.
l'ex-président de Mozilla France, Mozilla des développeurs open source du navigateur Firefox, qui était d'ailleurs passé dans le Rendez-vous Tech, Tristan Nitto.
Non, je sais
Il y a
pas.
bien longtemps, ouais, il y a un long moment.
Ouais. Donc Tristan Nitto, il en avait marre de Mozilla, donc il est parti et il s'est dit plutôt que d'aller vendre mes compétences de ouf à des grosses boîtes, je vais trouver une boîte sympa qui fait avancer la cause, tu vois, qui aide à la décentralisation, qui pousse ce truc. Et donc il a rejoint Cozy. Et Cozy, c'est un projet qui a quand même quelques années. J'en ai parlé il y a deux ou trois ans, je sais plus. Mais bon, c'est un projet open source déjà, enfin libre, voilà, qui marche avec tout ce qu'on peut imaginer, hein, une communauté et compagnie, et qui en fait propose à qui veut d'installer sur un petit Raspberry Pi ou sur un petit ordinateur que vous avez dans un coin. Un système qui pourrait s'apparenter un peu à ce que font les NAS, quoi, au final, qui va vous permettre de stocker vos fichiers en local, votre calendrier, donc tout ce qui est rendez-vous et compagnie, contact. Et ils ont surtout un magasin d'applications, donc un App Store, avec plein d'applis différentes, par exemple de prise de notes, pour voir ses photos, pour faire de la to-do, etc. Et leur volonté à Cozy, donc il vient lever plein de pognon. Donc c'est tant mieux pour eux, ils vont pouvoir se développer. C'est justement la décentralisation. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chez Google bêtement et de mettre ses mails sur Gmail, de mettre sa musique sur Google Music, de mettre toute sa vie chez Google en gros, eh ben vous mettez toute votre vie, mais chez vous. Et vos données, elles n'appartiennent qu'à vous, et elles sont stockées chez vous, etc. quoi. Donc il y a plein de problèmes à ça. Hein. Enfin, c'est que Madame Michu, entre guillemets, elle va pas forcément mettre les mains dans le cambouis et installer ça sur un Raspberry Pi. Il y a les problèmes aussi de sauvegarde. Si jamais ça crame chez vous, bah vous l'avez dans l'os, quoi. Alors que si c'est chez Google, ça, même s'il y a un serveur qui crame, ils ont tout ce qu'il faut en backup pour remonter le truc de manière transparente. Donc il y a plein de problèmes. Et Tristan Nitto a rejoint le projet, je pense, pour justement permettre le développement côté Madame Michu. C'est-à-dire que l'idée est bonne, l'outil est encore un peu moche, mais va être relooké bientôt, et l'outil est bon, quoi, fonctionne, c'est sur des logiciels libres, etc. Donc c'est une façon de rendre ça, on va dire, mangeable, comme l'a été Firefox, en fait. Firefox, au début, c'était un navigateur de barbu, et maintenant, tout le monde l'installe, quoi. Donc voilà, l'idée, c'est de rendre ça. Je pense qu'ils vont proposer, enfin, ça serait bien qu'ils le proposent, peut-être un hébergement avec aussi, parce que. Moi, par exemple, enfin, pas moi, mais je veux dire, quelqu'un qui n'est pas forcément sensible à la bidouille pourrait pas se poser de questions, dire bah, je vais chez Cozy, c'est français, c'est stocké, c'est chiffré, c'est backupé, j'ai les mêmes outils, mais c'est pas chez Google, c'est simple. Et puis après, passer le
Avec la
cap
possibilité de... Oui, c'est ça, c'est...
avec la possibilité après d'installer son truc. Donc, c'est un genre de. Moi, ils appellent ça du cloud, c'est du personal cloud, mais bon, c'est un genre de mini NAS perso
Bah en fait, c'est le fait
gratuit.
d'avoir un serveur chez soi, quoi.
C'est ça, voilà.
Un
Qui
serveur pour le mail, le
propose les
truc.
mêmes services que ce que propose Google, par exemple. Et leur volonté, là, actuelle, parce que j'ai parlé un petit peu avec eux, c'est surtout en termes d'application. C'est-à-dire qu'à terme, par exemple, plutôt que d'avoir. Non, je cherche un exemple qui soit potable, mais qu'en gros, tous les sites sur lesquels vous allez, finalement, que ça devienne des applications qui soient en local chez vous. Donc des choses décentralisées. Par exemple, un Twitter, ça pourrait devenir un Twister, donc ça existe. Hein. C'est Twister, c'est un équivalent de Twitter, mais décentralisé, c'est-à-dire que vous l'installez chez vous en local, et il communique avec ceux des autres, etc. Donc c'est un peu comme du peer-to-peer, quoi, ces messages s'échangent un peu comme ça, mais il n'y a pas de serveur central, c'est-à-dire que personne peut censurer un de vos messages, et personne peut couper Twitter du jour au lendemain en disant « bah merci, c'est bon, vous dégagez », quoi. Même chose avec Diaspora, que vous connaissez peut-être sûrement, enfin toi Patrick, en tout cas.
Oui, bien sûr, on en avait parlé.
Qui remplace Facebook, enfin en fait il y a des équivalents pour tous les gros sites qui centralisent en version décentralisée, alors qu'ils sont moches, qu'ils sont pas forcément très fonctionnels, qu'ils plantent, qu'ils sont... C'est le début, quoi. Mais donc, Cozy appelle un peu à tout ça et essaye de rassembler tout ça dans un App Store pour que chacun puisse installer ce qu'il veut en fonction de ses besoins, quoi.
Donc, et je pense que c'est important que ça existe, effectivement, et c'est important que ça se développe. Et pour ceux qui pensent... Pardon, tu voulais dire quelque chose?
Non, je disais, bah, moi, par exemple, j'utilise pas mal mon NAS. Chez moi, j'ai un NAS, truc à la con, un truc Synology, hein. Mais ils ont tous les équivalents aussi. C'est-à-dire que j'ai le truc de prise de notes qui peut remplacer Evernote, et l'appli est dispo sur mobile, et l'appli est dispo synchronise sur mon Mac et compagnie. Même chose avec les fichiers pour remplacer Dropbox. Enfin, il y a déjà plein d'équivalents. Donc Cozy, ça va un peu plus loin, c'est à dire qu'ils disent que on va pas se limiter à une architecture technique, on va pas se limiter à un NAS, Synology ou autre, on va le proposer pour tout le monde, et chacun va pouvoir l'installer comme il veut partout, etc., quoi, sur son serveur. Ouais. On pourrait très bien imaginer que là, moi, demain, je loue un serveur chez OVH, j'installe Cozy dessus, et puis je propose à mes lecteurs les mêmes services que ce qu'il y a sur Cozy. Non, mais ça peut être ça. Comme un peu ce que fait Framasoft.
Quand tu deviens fournisseur de services, t'exposes justement à des législations et des régulations assez contraignantes. Mais bon.
C'est ça, mais bon, ça c'est pour le côté j'héberge. Pour les gens qui ne savent pas le faire, il y aura forcément ce côté-là. Mais ça permet quand même de s'habituer à l'outil et puis de basculer après en auto-hébergement.
Et effectivement, c'est un peu moche aujourd'hui, c'est un petit peu un truc de barbu, mais pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup de choses qui ont commencé comme ça. Et aujourd'hui, ce mois-ci, on fête le 30e anniversaire du GNU Manifesto, du GNU Manifesto de Richard Stallman, qui est un petit peu le document fondateur de tout le mouvement open source, libre, tout ça. Je suis pas très précis, mais c'est exprès, on n'a pas... Voilà. Et Richard Stallman est quelqu'un qui est un petit peu moins connu que Linus Torvald ou ce genre de personnes, parce qu'il a une personnalité un petit peu différente, il est un petit peu particulier, mais c'est vraiment celui qui a lancé tout ça, et je voulais le mentionner maintenant que son manifesto a plus de 30 ans. GNU, c'était pour remplacer Linux, et pour ceux qui ne le savent pas, c'est un acronyme récursif qui veut dire GNU's not Linux.
Unix, pardon.
GNU's not Unix. Ça voulait remplacer Unix à l'époque.
Mais c'est le même problème. Ouais. Effectivement, il y a une correspondance entre les logiciels libres par rapport aux logiciels fermés et les services centralisés par rapport aux services décentralisés. Voilà, pareil, c'est des choix aussi. Hein, donc, si les
non,
gens
c'est des choix. Et puis, on peut à terme imaginer qu'il y aura des alternatives commercialement, je veux dire, utilisable par le grand public, et c'est ce qu'espère faire Cozy. Il y en a sûrement d'autres qui travaillent vers ça aussi, et c'est important qu'on ait ce type d'alternative.
Bah, quand tu vois des outils qui permettent de faire du BitTorrent, alors c'est de l'échange de fichiers, mais ça demande pas de serveur central, c'est tout. Les gens marchent entre eux, donc pourquoi pas l'imaginer pour un Facebook ou pour un clone de Facebook ou compagnie. C'est pas plus con, il suffit que ça soit beau et que ça soit adopté et qu'il y ait un intérêt pour, on va dire, pour les consommateurs et Madame Michu, etc., pour le grand public, quoi, que d'y passer, et tout le monde y passera. Ouais. Mais bon,
il y a plein de trucs qui font sur le même principe. Il y a le réseau Tor, il y a les bitcoins, mine de rien, c'est un petit peu ça aussi.
Ouais.
Enfin, c'est effectivement, il y a plein de possibilités. Alors ensuite, il y a des avantages et des inconvénients. Il y a des gros problèmes qui sont posés par ce type de serveur, hein, enfin de service. Mais bon. On pourrait en lancer tout un débat, mais il est important qu'il y ait ce type d'alternative. Et d'ailleurs, petite anecdote en passant, selon les derniers sondages, en Islande, le parti pirate a atteint 23,9% du soutien de la population, ce qui en fait le premier parti politique du pays. Rendez-vous compte.
Ouais.
Bon, il n'y a pas d'élection tout de suite, là, donc ça ne va sans doute pas se traduire immédiatement dans, dans quelque chose de concret, mais c'est le premier parti politique du pays en Islande.
Ouais.
J'ai rêvé. Twitter a confirmé l'acquisition de Periscope. Si vous ne savez pas ce qu'est Periscope, eh bien, c'est un service équivalent à Meerkat. Et si vous ne savez pas ce que c'est que Meerkat, eh bien, Meerkat, c'est un service qui a énormément de popularité en ce moment, qui est un service de streaming qui se basait sur Twitter. Alors, il y a des petites histoires entre Meerkat, Twitter, Periscope. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais ça signale le fait que les services de streaming vidéo personnel simples sont aujourd'hui, parce que l'état du marché est propice et l'état de la technologie sont propices, ça permet de streamer donc ce qu'on est en train de faire. Très simplement, on appuie sur un bouton et on stream en direct sur Internet et ça donne un lien sur Twitter.
Ce que faisait déjà YouStream et ce genre de trucs.
Alors, il y en a plein qui le faisaient avant, mais aujourd'hui, la simplicité de ce logiciel allié au fait que les machines sont suffisamment puissantes et les connexions sont suffisamment puissantes pour le faire à peu près n'importe où, font que ça décolle un petit peu. Alors, Meerkat, ça sera peut-être... ils sont en train de lever de l'argent, tout ça. Ça sera peut-être un buzz qui va disparaître. Mais il n'empêche que ça peut ouvrir des possibilités intéressantes. On pense tout à fait au hasard. Au début, vous vous dites, mais enfin, qui a besoin de streamer ce qu'il est en train de bouffer ? Voilà, on va avoir des streams de ce que les gens sont en train de bouffer au lieu d'avoir des photos. Super, quoi. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a des Coréens qui se streament en train de bouffer. Ça n'a rien à voir avec Meerkat, mais qui se streament en train de bouffer. Et il y a plein de gens qui regardent.
Enfin, ouais, j'ai vu ça. Et la fille, elle gagne sa vie avec ça. Je l'ai vu, le reportage sur ça.
C'est un peu.
Mais elle est
un
mignonne, elle est jolie. Elle mangerait.
Mais il
n'y
a pas qu'elle.
Ouais, il n'y a pas qu'elle. Mais bon.
Mais je me disais aussi, c'est sympa si on bouffe tout seul, peut-être qu'on peut bouffer avec quelqu'un. Mais bon,
avec quelqu'un qui
regarde. Bah ouais, peut-être. Mais non, mais bouffer avec quelqu'un qui.
Ah bah je tente ce midi, allez, je bouffe.
Allez, soyons.
Je stream.
Mais en fait, le truc, c'est que oui, il y a ce genre de conneries, mais on peut tout de suite imaginer aussi, alors des trucs bien et des trucs moins bien, genre streamer un concert, comme ça, avec un mec dans la foule, streamer un événement, une manifestation, streamer quand il y a un problème quelque part, tu peux immédiatement streamer le truc, c'est vraiment cohérent avec
la politique. Ne sous-estime pas Snapchat sur ce segment.
Mais oui, mais c'est pas du stream direct Snapchat, tu enregistres le truc, tu l'envoies, les gens le regardent après. Ah,
pour
peut-être.
Ouais. Mais ça serait un bon virage pour eux, je pense, hein, parce qu'ils ont déjà la communauté et il manque plus que ça, quoi.
Ouais, mais moi je crois que c'est plus pour les trucs, ça sera vraiment intéressant pour les trucs. Le reportage en direct, comme le fait si bien Twitter, on a eu ces derniers temps, ces dernières années, des photos qui étaient transmises par Twitter immédiatement avant même que les journalistes, enfin les chaînes de télé n'aient le temps de comprendre ce qui se passe quelque part. Il y a déjà des dizaines de photos qui circulent sur Twitter. Là, je ne doute pas qu'on pourra voir quand Twitter aura mis en place Periscope, donc la société qui fait un petit peu la même chose, qui était en bêta fermée, dans son service. On peut tout à fait imaginer les chaînes de télé qui ne font plus seulement que, dans leur reportage en direct, parler de ce qui se passe sur Twitter, mais carrément montrer ce qui se passe, ce qui est streamé sur Twitter par Meerkat ou Periscope lors de, je ne sais pas, une manifestation ou des heurts avec la police ou je ne sais pas, ce genre de choses.
Ouais, bah c'est du live pour tout le monde. Quoi.
Pour tout le monde.
Ouais. Non, moi j'adore. Hein. Là, Periscope, je pense que c'est que sur iOS et Meerkat, c'est pareil. Donc, je n'ai pas encore eu la joie de tester, mais j'avais testé sur les trucs.
Ils arrivent sur Android.
J'avais testé des trucs genre YouStream, etc. Effectivement, l'intérêt, c'est d'avoir ce genre d'appli sur son téléphone. À l'époque, quand j'avais testé les smartphones, la 3G, même la 2G, c'était pas encore le pied. Mais c'est vrai qu'avec de la 4G, tu streams facile. Et voilà, sur ce genre de trucs, pourquoi pas. Ça peut être ça permet de faire ce qu'on fait déjà quand on fait des hangouts ou des lives avec toi ou avec d'autres, avec son PC ou son Mac. Là, on le fait dehors, quoi.
Mais en plus, en public complet, immédiat. C'est vraiment, on lance l'app, on appuie sur un bouton et paf, on est en train de streamer. Donc.
Ouais, moi j'aime bien. Je pense que dès que ça sera dispo sur Android, je m'y mettrai. Hein.
Ouais, très bien. Et d'ailleurs, je parlais de Meerkat dans le dernier upload, donc c'était il y a 2 semaines.
D'accord.
Donc effectivement, j'avais surfé sur
Meerkat. Ouais, je me souviens.
Pebble a annoncé qu'ils allaient donner 1 million de dollars en crowdfunding. Ah non, pas à Corben, écarte-toi, mais aux gens qui vont développer des Smart Straps, intéressante. Vous vous souvenez que la nouvelle Pebble, la smartwatch de Pebble, la Pebble Time, inclut un connecteur qui permet à n'importe qui dans leur écosystème de développer des bracelets intelligents. Et là, ils vont financer les projets les plus intéressants grâce à $1 million des nombreux millions de dollars qu'ils ont acquis en pré-vendant leur Pebble Time sur Kickstarter. Hein. Bon, peut-être une partie vient de là, mais ils avaient en tout cas des finances saines. Donc, c'est intéressant de développer cet écosystème comme ça. Je trouve qu'ils ont vraiment le vent en poupe, Pebble, en ce moment. Nintendo a annoncé quelque chose de cataclysmique. Ils font un partenariat avec une société qui s'appelle DNA, une société japonaise, pour amener des jeux et surtout leur IP, leurs univers, sur les smartphones.
Ouais, il est temps.
Alors justement, il y a tout un débat à avoir qui serait très très long. On va en parler dans le prochain rendez-vous jeu dans une semaine. On va analyser ça en détail. On va aussi en parler dans Pixels que je vais enregistrer plus tard lundi. Aujourd'hui, donc cette semaine, il sera disponible, mais c'est en anglais. Pour la version française, il faudra attendre la semaine prochaine. Mais il y a plusieurs choses à savoir. D'une part, il y aura un service avec abonnement quelque part qui c'est un peu flou, mais il y aura un truc avec abonnement qui marchera sur toutes les machines, donc sur les smartphones, les PC, les machines Nintendo actuelles et les prochaines machines qu'ils ont annoncées du même coup pour montrer qu'ils ne s'écartaient pas de leur cœur de métier qui est les machines dédiées. Hein. Ça sera une autre machine dont on avait entendu parler un petit peu par rumeur, comme quoi ça serait une sorte de truc hybride entre portable et console de salon. Ouais. Ils vont pas forcément développer les jeux tels qu'ils sont sur les consoles existantes, donc on va pas retrouver des jeux 3DS ou Wii U sur portable, et c'est tant mieux parce que l'interface n'est pas du tout adaptée, et ils ont dit aussi que aucun de leurs univers n'était écarté de cette possibilité, donc il est possible qu'on ait des jeux dans l'univers Mario, Zelda, etc. sur smartphone, et ils voudraient sortir les premiers dans l'année.
Ok.
Voilà, grosse nouvelle,
on décortiquera ça. Ils ont toujours résisté pour pas faire ça.
Ouais, et au final, je crois que ça peut être une bonne chose. Ils y vont contraints et forcés, parce que ça marche tellement moins bien la Wii U et même la 3DS commence à piquer du nez. Ils y vont contraints et forcés, mais au final, je pense que ça pourrait être bien.
Mmh. Ouais, c'est clair.
À partir du moment où ils restent présents sur le marché des consoles dédiées, et qu'ils ne font pas n'importe quoi, et je ne pense pas qu'ils vont faire n'importe quoi, parce qu'ils vont, ils savent qu'il ne faut pas développer exactement les mêmes jeux, je pense que c'est une bonne chose. Bon, on verra. Dernière rumeur, là, pour le coup, Apple serait prêt à lancer une nouvelle version de l'Apple TV à la WWDC en juin, donc leur conférence pour les développeurs, en juin, avec plus de capacités et surtout, enfin, un vrai App Store, Siri, une intégration à HomeKit et, aux États-Unis en tout cas, un service de télé, peut-être avec abonnement. C'est enfin l'entrée d'Apple sérieusement dans le domaine de la télé, enfin de la vraie set-top box. Je surveillerai ça, comme toujours, d'un petit peu près, mais pour le moment, ça reste des rumeurs.
Ok.
Donc, Corben, tu vois, tu auras le choix entre Google TV et Apple TV. Là, maintenant, ça sera uniquement chez les grands géants d'Internet de ce monde.
Ouais, bah écoute, tu sais, moi, j'ai Popcorn Time TV.
Ah, d'accord, tout va bien.
Donc, tout va bien.
Je savais que je pouvais compter sur toi.
Non, mais je faisais la réflexion. En fait, j'utilise pas Popcorn Time, mais j'ai me suis remis hier, bizarrement, pour voir. Et en fait, je me dis, mais putain, s'il y avait la même chose, en payant, mais je signe tout de suite, quoi. Je prends, quoi. J'achète, je paye. Enfin, je m'en fous, mais c'est tellement pratique. Ouais.
Combien tu serais prêt à payer, tiens, pour un service qui te propose tous les films et toutes les séries télé, sans exception?
Bon, moi, combien tu serais prêt à payer? Je sais pas, 30-40 euros, un truc comme ça, par mois.
Je crois aussi, s'il y a tout, s'il y a absolument tout, s'il y a House of Cards, Game of Thrones, tous les trucs, tous les films qui, à partir du moment où ils sont disponibles en VOD, enfin, s'il y a tout et que c'est disponible en temps et en heure, moi, je paye, je sais pas, 30, 40, même 50 euros, quoi. S'il y a tout, il n'y a pas de problème.
Oui,
quoi.
Bah oui, parce que du coup,
t'as accès à tout, quoi.
Bah ouais, ouais, puis... Puis au moins, t'es tranquille, quoi. Tu te fais pas chier, tu sais que t'as tout qui va marcher, tu vas pas manquer de source ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, ouais, mais bon.
Bon, écoute, Corben, j'ai passé une heure et demie absolument délicieuse avec toi, ça m'a fait très plaisir.
De même.
et j'aimerais bien prolonger l'expérience, mais en lecture plutôt, pour reposer un petit peu mes oreilles. J'aimerais bien en lire un petit peu plus de tes activités. Où est-ce que je peux aller, dis-moi ?
Eh bien, sur corben.info. K-O-R-B-E-N.info et puis voilà, puis sur Twitter, twitter.com/Corben, et puis bah sur Snapchat, du coup je raconte des conneries sur Snapchat, donc c'est Corben00 sur Snapchat, mais ça, enfin voilà, c'est n'importe quoi, enfin je veux dire, ça, oui. faut pas chercher, je poste n'importe quoi, donc
c'est fait pour ça,
si vous aimez la qualité, c'est le blog et le Twitter, et puis si vous voulez voir des trucs dégueux ou écouter mes conneries, c'est Snapchat.
Et bien pour moi c'est un petit peu pareil, je suis NotPatrick sur Twitter, je suis aussi NotPatrick sur Facebook, et vous pouvez aussi aller sur le blog de l'émission, c'est frenchspin.fr, si vous voulez commenter cet épisode, si vous voulez aussi retrouver d'autres émissions qui pourraient vous plaire, comme Au hasard Upload, où on a aussi du Corben dedans, d'ailleurs on enregistre demain, hein, t'oublies pas.
Ouais, j'oublie pas.
Et le rendez-vous jeu, si vous aimez les infos sur les jeux vidéo et notamment le fait de décortiquer cette annonce de Nintendo. Et vous pouvez aussi, bien sûr, soutenir cette émission si l'envie vous en prend, si vous pensez que c'est important. Si vous pensez que cette émission vous apporte quelque chose, quoi que ce soit, bah, ça vaut peut-être... $1 par épisode, quelque chose comme ça, $2, $3 peut-être.
Un bitcoin.
Non, c'est que des dollars, malheureusement. et c'est sur patreon.com. Et comme le disait Bruno Twitos il y a quelques épisodes, c'est hyper simple, vraiment. C'est hyper simple à faire. Donc, je suis hyper reconnaissant que les patriotes réussissent à me faire vivre de ce métier que j'adore. Et je serais vraiment heureux que vous aussi, vous contribuiez parce que vous pensez que cette émission a de la valeur, et si elle a de la valeur, et ben vous pouvez le montrer en donnant un petit peu de sous, par exemple. Ou alors, je sais pas, en parlant autour de vous, en commentant, en mettant des notes sur iTunes, ou ce genre de choses, au hasard, par exemple. Voilà. Mais bon, les sous, ça fait plaisir aussi sur patreon.com/rdvtech, si vous pouvez. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau rendez-vous tech. Et d'ici là, on vous fait plein d'énormes bises. Ciao, ciao.
Ciao tout le monde.